Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans RNG. Vous êtes sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris. Je suis accompagné de mon ami et collègue Swill.
Salut Ulysse, comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Super, super.
Et pour cet énième épisode dans cette saison 3 donc, de RNG, on voulait aborder un sujet qui est extrêmement, j'ai envie de dire délicat, mais en tout cas d'actualité et qui vraiment a agité en tout cas la sphère du gaming. Vraiment, c'est une espèce d'un peu de révolution, entre guillemets. Mm-hmm. On peut dire ça comme ça, de ce qui vient de se passer. C'est le DLSS 5 d'NVIDIA. Donc, a été révélé à la GTC, c'était vers le 16 ou 17 mars 2026.
C'est ça.
Et voilà, donc NVIDIA a présenté une nouvelle technologie. On va en parler. C'est présenté comme l'avenir du jeu vidéo, du rendu en temps réel. Et ça a suscité pas mal de réactions.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel backlash médiatique.
Ouais, c'est vraiment le cas. Et du coup, dans l'épisode de la technique, notre conclusion, c'était la technique, elle se définit par des limitations, donc techniques de hardware, de console, qui font l'esthétique d'une génération, esthétique PS2, PS1, tout le monde le voit et tout. Et donc, c'est une entité sonore, visuelle, et le DLSS5, là, comme ça, en introduction, c'est un peu la promesse de s'émanciper de la technique. Du coup, ce qu'on va essayer de voir un peu, c'est... ça va être quoi l'esthétique du jeu vidéo ? C'est quoi l'esthétique que cherche à produire NVIDIA ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? On va en parler tranquillement, on a une petite heure pour ça. Et je vais laisser du coup la parole à Swill un peu pour commencer la réflexion, le débat.
D'abord, c'est quoi le DLSS ? Est-ce que ça se mange ? Est-ce que ça se boit ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que le DLSS, c'est une révolution depuis cette génération. Enfin, pas le chiffre, mais ça a vraiment révolutionné cette génération, qui est la 9e du coup. Et surtout dans l'univers PC, clairement, parce que du coup, c'est une technologie d'upscaling du coup, qui est maintenant présente depuis un moment et qui fait vraiment le bonheur, j'ai envie de dire. Sincèrement, c'est peut-être l'une des meilleures choses de cette génération, sincèrement, parce que voilà, comment ça fonctionne, c'est tout bête. C'est une technologie de reconstruction d'image en temps réel, faite par intelligence artificielle. Du coup, c'est une technologie faite par NVIDIA, mais qu'on peut retrouver sous d'autres noms. Par exemple, chez AMD, qui est le FSR. PlayStation a sa propre technologie, qui est le PSSR, par exemple.
Il a eu sa mise à jour, voilà, donc le PSSR 2.
Exactement. Et du coup, le DLSS, en fait, là... Il n'y a pas très longtemps, on venait de voir l'arrivée du DLSS 4.5 et qui permettait du coup voilà, un gain de performance réelle tout en maintenant une résolution assez élevée, du coup avec une reconstruction de l'image en temps réel. Et là, on a eu du coup NVIDIA qui a, à la GTC du coup, fait venir des journalistes et leur a fait tester du coup une démo du DLSS 5. Déjà, d'un point de vue technique, comment ça a fonctionné, c'est pour montrer à quel point que c'est qu'une démo. Il a fallu deux cartes graphiques 5090 pour faire tourner le bébé. C'est-à-dire, il y avait une carte graphique qui s'occupait de faire tourner le jeu. Ça pouvait être... les jeux, c'était... Du coup, il y avait Oblivion, Hogwarts Legacy...
Starfield.
Starfield, Resident Evil 9...
Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows, voilà. Et en fait, il y avait une carte graphique 5090 qui est déjà... La carte graphique la plus puissante du marché.
Qui coûte actuellement pas moins de 3 200 €. Elle voilà, est commercialisée à 2006, mais là tu la trouves pas à moins de 3 000, voire 4 000 €.
Voilà, donc c'est une carte graphique qu'on trouve pas, tout simplement.
Qui n'existe pas.
Qui n'existe pas. Et une autre carte graphique, une autre 5090, du coup, qui s'occupait de faire tourner le DLSS 5. Donc, ils avaient un PC de malade, tu vois. Non, mais je pense que c'est important de mettre ce genre de base.
Bien
et
sûr,
en fait,
sûr.
Du coup... Les journalistes ont testé ça et quelques semaines après, il y a eu un reveal public. Un reveal public qui a été fait par NVIDIA et du coup, les journalistes qui parlaient du coup de leur test et douche froide quand le reveal a été fait sur les réseaux, moi je pense à X notamment, où on a vu du coup des avant-après. Je vous invite, franchement c'est bête, mais je pense que pour que vous puissiez nous suivre dans cet épisode, il faut que vous ayez les images en tête, il faut que vous voyez de quoi on parle. Ouais. Donc tapez juste voilà, sur YouTube ou TikTok rapidement DLSS 5, Resident Evil 9, Hogwarts Legacy, et vous allez voir l'avant-après pour vous montrer à quel point quand même c'est balèze, genre il se passe des choses à l'image, à l'écran. Et ça a créé un véritable backlash parce que, sans plus tarder, il y a eu voilà, des retours, les premiers retours auxquels on pense. Et,
ouais, une levée de bois vert, j'ai envie de dire, où il y a eu tout de suite beaucoup de mèmes qui ont été créés autour donc, du DLSS5. L'idée que ça yassifie un peu l'image, que ça crée une forme de AI slope, où les personnages paraissent donc maquillés, retouchés, trop lisses ou beaux, etc. et tout. Donc ouais, il y a eu un gros rejet de la part des joueurs ou de professionnels aussi hein, de l'industrie qui étaient un peu en mode « Wow, genre c'est quoi ce bordel ?» et ouais, on est là du coup pour parler un peu de ça. Je pense que la première question un peu à aborder qu'on voulait dans la première partie, c'est pourquoi le DLSS 5 s'appelle DLSS ? Juste là, vu qu'on est vraiment un peu dans l'aspect technique de définir ce que c'est. Donc comme l'a dit très bien Swill, le DLSS, donc c'est le Deep Learning
Super Sampling.
Ouais, Super Sampling. Voilà, c'est une technologie qui en soi fonctionne déjà avec de l'IA. C'est un modèle d'IA, mais qui du coup en temps réel voit les pixels, donc on l'avait défini dans l'épisode de la technique, en résolution plus basse. Votre image elle est en 1080p, comme l'a dit Swill, elle l'augmente en 4K. Elle fait en sorte d'affiner un peu l'image, de gagner en stabilité, etc. et tout. Et au fur et à mesure, donc il y a eu le modèle DLSS 1, 2, avec le DLSS 3, il y a eu le frame generation, donc il est de rajouter des fake frames entre chaque vraie image, etc. Donc de gagner en fluidité visuelle. DLSS 4, ils ont apporté le multi-frame generation pour chaque image générée par votre carte graphique, moteur graphique. Le modèle de DLSS en rajoutait deux, qu'il extrapolait du rendu. Et là, voilà, DLSS 5, c'est genre okay, l'IA qui revient par-dessus. Pour définir un peu donc là, le DLSS 5, comment c'est présenté, Swill va peut-être me rajouter aussi des éléments, parce que si on est d'accord, il y a eu un peu tout et son contraire qui a été dit sur le modèle de comment ça marche. Donc là, le DLSS 5, comme il a été présenté vraiment le 16 mars, Nvidia a dit dans un papier qui se trouve sur le site d'Nvidia, si vous avez une carte graphique Nvidia, ça apparaît même maintenant dans le menu de l'application Nvidia, en mode mise à jour, voilà ce qu'on vient de révéler. Et ils disent donc que le DLSS 5, il se base donc sur les vecteurs de mouvement et sur les couleurs qui sont présentes dans le jeu. C'est-à-dire que par rapport à certains pixels de certaines couleurs, le DLSS 5 va analyser ça et se dire « Ah bah ça c'est plutôt du cuir, c'est du métal, c'est de la peau ». Et vis-à-vis donc du mouvement à l'image, il va identifier, ok, est-ce que ça c'est un personnage, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est une feuille qui vole, etc. Il va essayer d'identifier, d'analyser l'image en temps réel, et de se baser donc sur ces deux éléments pour...
recréer ou améliorer l'image, voilà, je sais pas comment le dire, mais ouais.
Ouais, c'est ça. Et en fait, donc au début, ils ont dit que ça touchait pas à la géométrie, c'est ça ? Que ça touchait pas au niveau, donc, au niveau des polygones, entre guillemets, à ce que le moteur graphique produisait, en termes donc de personnages, d'environnement 3D. Mais, ce qu'il va me répondre, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça ne retouche pas vraiment l'image ? Est-ce que Grace, si vous avez donc le DLSS 5 et que vous regardez sur Internet, est-ce que Grace de Resident Evil 9, c'est le même personnage ?
Bah non. Là, on peut juste faire une analyse purement visuelle et technique, c'est-à-dire de nous, qu'est-ce qu'on voit, et aussi reprendre, on peut dire, des experts sur le sujet. Si vous avez vu le avant-après de Grace avec ou sans le DLSS 5, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est limite pas la même personne. Il y a cet aspect très, que moi j'aime beaucoup, très yassified, le côté de, on a l'impression qu'elle a pris un coup de shotgun de make-up dans la tronche, tu vois, genre vraiment. Mais si on fait juste une analyse technique, on peut tout de suite considérer le DLSS 5 comme une forme d'échec technique. Un peu, il y a une forme d'instabilité qui se crée d'un point de vue purement visuel où on voit l'apparence de physique de Grace qui est modifiée. On voit voilà, qu'elle a du rouge à lèvres, on voit que ses yeux ont l'air plus sombres, donc il y a peut-être voilà, Cécile
ouais, du mascara
dessus,
ouais.
Voilà. Elle a les traits beaucoup plus fins, du coup, grâce, on a l'impression, à l'application du maquillage par le DLSS 5. Et donc, ça crée un visuel qui est très dérangeant, et en fait, c'est quand on considère juste le DLSS 5 comme un outil technologique qui est là pour, on va dire, améliorer un visuel de base, on peut que voir ça comme une forme d'échec dans ce que un upscaler est censé faire, en fait, de mon point de vue. Et surtout selon les termes de Nvidia qui dit voilà, c'est un upscaler, voilà, juste de couleur, ce genre de choses, il n'y a pas de modification à la racine des éléments visuels. Sauf que là, on a tous des yeux, en fait, il y a un côté de. Ouais. Et donc voilà, surtout dans le cas de RE9, il y a un côté hyper étrange où ça vient limite un peu dénaturer le jeu de base. Si toi, Ulysse, je sais que voilà, t'as fait Resident Evil 9, mais moi j'ai joué cette séquence. Pour rappeler un peu voilà, le cas de Grace, pour montrer à quel point, si on a joué à Resident Evil 9, montrer à quel point là le DLSS 5, on a l'impression qu'il est il est hors sujet, en fait. Je sais pas comment. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais je vois, ouais.
Parce que c'est peut-être voilà, rappeler le contexte du.
Le contexte de la séquence, c'est donc au tout début du jeu, hein, c'est simplement donc Grace Ashcroft, qui, voilà, personnage protagoniste de Resident Evil 9, retourne dans un hôtel où il y a eu un meurtre. Il y a une série de meurtres qui a lieu en ce moment dans une ville. Et cet hôtel, donc là où elle retourne, c'est là où sa mère s'est faite assassiner 10 ans auparavant, un truc comme ça. Donc elle y va un peu à reculons, elle est très, très anxieuse, très stressée, elle bégaye pas mal et tout. Et c'est un truc que, ouais, a relevé du coup Alex Battaglia dans un épisode de Dev Direct, où il disait, bah en fait, et on le voit, c'est vrai, on n'a pas du tout l'impression que là, elle va... dans l'hôtel où sa mère s'est faite violemment assassiner 10 ans auparavant, vu qu'elle semble maquillée, le stress, donc la motion capture ou l'expression qui est censée se lire sur son visage, elle semble figée, un peu comme de la chirurgie esthétique en fait. T'as l'impression que ça fige son expression du visage, et juste en une photo, c'est assez palpable en fait. C'est vrai que c'est assez troublant. Il y a eu une deuxième image, après qui avait été montrée du jeu, quand elle rentre dans l'hôtel, on la voit avec une lampe torche, où je trouve ça moins choquant, mais après c'est un très gros plan. Mais donc ça soumet un peu la question, comme dit Swill, de l'échec, où si par exemple en très très gros plan le modèle de DLSS arrive à respecter un peu plus l'émotion, les textures, la peau, c'est une chose, mais si entre guillemets l'image est de plus en plus petite, là on parle de DLSS, c'est des questions de résolution, si ton visage de base, il est en 720p, il est en 540p, à partir de quoi le DLSS 5 va extrapoler cette image? À quoi va ressembler le visage final? Et c'est un peu la question qu'on peut se poser et qu'on a déjà vu avec des premiers modèles d'IA. C'est pas forcément Gemini ou Sora, mais des peu importe modèles d'IA classiques. Pensez là, il y a quelques années quand ça a commencé à émerger, on voyait, pour restituer des détails, que l'IA elle hallucinait. On parlait d'hallucination d'IA parce que c'était des éléments qui n'étaient pas présents sur la photo de base, soit des sourcils, des rides, des choses, mais pour rendre plus réaliste, pour ajouter un visage qu'on aurait entre guillemets perdu. L'IA fantasmait ce truc-là, si on veut le dire. Et ça se voyait avec de la VHS. Au début, les gens disaient, ah, pour de la restitution de la vidéo, ah, bah, des vidéos d'archives, des trucs vraiment qui maintenant sont très dégradés. Si on veut les remettre en 4K, on utilise de l'IA. Et en fait, au tout début, quand vraiment on n'arrivait pas à le gérer et à ajuster, entre guillemets, l'intensité du curseur, vraiment, il y avait un résultat qui était de l'ordre de l'Uncanny Valley, de ces gens-là n'ont jamais ressemblé à ça.
Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, on a eu, face voilà, à ce tel backlash, forcément, Nvidia, il fallait tout de suite une réponse. Et du coup, on a eu Jensen Huang, je ne sais pas comment on le dit, qui est le CEO de Nvidia, c'est John Nvidia, voilà, qui a été invité chez Alex Friedman, qui lui a voilà, proposé une interview de 2 heures, voilà, un podcast vraiment hyper long dans lequel il parlait d'énormément de choses, mais il est revenu sur le DLSS 5 où il disait que voilà, la réception a été mal comprise. Du coup, on était face voilà, à John Nvidia qui essayait de passer un peu la pommade en expliquant que non, les gamers avaient mal compris, ils avaient tort et que il admettait du coup, non, nous on a mal fait notre travail d'explication et du coup, genre, il tente encore une fois de réexpliquer à quel point ce n'est pas de l'IA générative à la racine. Et en fait, il nous dit juste que bah, c'est de l'IA générative.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est un peu triste, en fait, où on a l'impression que Nvidia ne s'attendait pas à ce que les joueurs soient autant contre l'usage d'IA générative dans leur jeu. Mais en fait, face à ça, ils peuvent que, on va dire, essayer de faire passer la pommade en, en disant que voilà, vous avez pas compris, vous inquiétez pas, on n'a pas entraîné notre IA sur voilà, des images stock ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas vraiment de justification technique, c'est ça un peu le problème. Donc pour une technologie de ce genre-là, il ne faut pas juste voilà, faire du... Je veux dire, juste passer la pommade de « vous avez mal compris, vous allez voir bientôt, ça fonctionne bien ». Non, 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 c'est... Au lieu de nous prouver techniquement, non, 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 c'est juste, on va dire... il essaie voilà, de nous rassurer, de nous mettre une petite tape dans le dos. Donc, on ne comprend pas trop la position du CEO là-dedans. On a l'impression que c'est peut-être limite pour rassurer peut-être un peu économiquement certaines personnes.
Bah, c'est vraiment du dommage contrôle, quoi. C'est en fait, on a l'impression que tout et son contraire a été dit. C'est, non, mais c'est pas de l'IA générative. Bon, en fait, si c'est de l'IA générative, mais pas comme vous le pensez. Ou... Non, mais vous inquiétez pas, ça touche pas la géométrie. Finalement, on se rend compte que sur une image de Starfield qui a été analysée par Daniel Owen, il y a des cheveux qui apparaissent sur un personnage qui ne sont pas là de base. Donc, c'est vraiment, ça rajoute des éléments qui n'existent pas à l'image. Parce que la justification d'NVIDIA jusque-là, c'était de dire si Grace paraît très différente, c'est une question d'éclairage. C'est simplement comme un shooting photo, on met les lumières un peu ailleurs, donc ça crée des ombres différentes sur le nez, la bouche et tout. Ce que je peux entendre, mais en fait, il y a aussi ce truc où, comme dit Sweet, on a des yeux. Et moi, je fais, vous pouvez me le justifier comme vous voulez. C'est aussi un article du coup de Jules, shout-out, KL, qui a écrit une ultime bafouille sur Gamekult, qui était en mode, ouais... peu importe votre soupe que vous me servez, si votre soupe elle a un goût de caca, vous aurez beau me dire vous avez mis des ingrédients bio, tout ça et tout, je m'en fous, moi je la goûte, je vois qu'elle est dégueulasse. Et c'est à peu près là ce qui se passe, c'est que en soi, les réactions, vu qu'on en parle, elles sont très négatives parce que les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, tout simplement en fait. On aura beau essayer de théoriser sur ce que le DLSS 5 produit, là on l'a introduit, on vous a dit voilà, l'outil est censé fonctionner de telle façon, maintenant il y a un résultat, et le résultat, il ne plaît pas. Maintenant, on peut se poser la question de pourquoi, est-ce que c'est beau ou non. Et moi, je voulais développer une espèce de petite parenthèse vis-à-vis de ça, c'est vis-à-vis de l'esthétique. Je pense que c'est un débat qu'on n'a pas eu assez sur toutes les vidéos, les blogs et tout que j'ai regardé qui parlent de jeux vidéo et de DLSS. Personne n'a vraiment défini genre, ok, mais pourquoi on n'aime pas le DLSS 5? Pourquoi est-ce qu'on trouve ça pas beau? C'est quoi du coup ce qu'on trouverait joli? Et je me suis dit, bah, hey, revenons à nos classiques. Moi, j'ai repris mes cours que j'avais à la fac. Quand j'étais en fac de ciné, je regardais du coup des trucs par rapport au beau, etc. Donc je suis reparti sur des notes que j'avais prises. Et du coup, je suis revenu sur Kant, qui dans l'analytique du beau, commence par remarquer que le jugement, donc c'est beau, c'est pas un jugement de connaissance, ok? Comme par exemple, cette fleur a des épines, mais qui nous apprend rien sur l'objet, en fait. En soi, il ajoute rien à sa connaissance. On peut dire de la même fleur qu'elle est belle, mais je m'étendrai pas à une connaissance sur elle, qui ferait qu'un botaniste serait là en mode « Ah ok, genre tu, maintenant que tu me l'as décrite en disant « Elle est jolie, je sais à quoi elle ressemble. En » fait, c'est une information qui n'a pas d'utilité. Okay, le jugement de beau ou de goût, comme dit Kant, qui définit donc le goût comme la faculté de juger du beau, est donc esthétique. Ce qui signifie qu'il n'est pas objectif, mais subjectif, en fait. Donc, ça désigne rien de l'objet, simplement de la façon dont celui-ci m'affecte. Genre, je trouve quelque chose de beau, ça en dit plus sur moi, la façon dont je suis affecté par cet objet que par l'objet en lui-même. Et donc par la suite, voilà, Kant développe que on peut pas s'empêcher de juger que la même chose qu'on voit comme belle doit être pour chacun la source d'une semblable satisfaction. Et à ce moment-là, en fait, il parle un peu de d'objectivité subjective. Donc cette idée-là que même si on n'a pas vraiment de base commune vis-à-vis du goût et de l'esthétique, et surtout que ça se bosse pas sur des théorème mathématique, on peut prouver par 2 plus 2 font 4, etc. Et ça fonctionne de telle façon. Si on trouve quelque chose de beau, on s'attend à ce que ça affecte de la même façon un de nos semblables, un autre être humain. D'accord. Donc voilà, ces principes, voilà, ça affirme le caractère relatif, subjectif du goût. Et je trouve que c'est une thèse qui est hyper intéressante vis-à-vis donc, de l'universalité subjective qu'on a donc, de ce rapport au goût et au beau. Et on peut se poser la question de, ok, bah, du coup, dans le jeu vidéo, qu'est-ce qu'on trouve beau? Qu'est-ce qui est appréciable? Et si là, moi, je voulais placer ça un petit peu et tout, c'est pour déjà dire que, en effet, c'est subjectif. Là, le fait que le DLSS 5, il y en a qui trouvent ça joli, il y en a qui vont voir les visages de Starfield, Grace ou autre, qui vont trouver ça plaisant visuellement. D'autres non. Pour moi, ce qui va définir un peu notre rapport au beau, notamment vis-à-vis des visages, je pense que dans le jeu vidéo, vu que c'est lié à la technique et à de l'artificialité, c'est la théorie de l'Uncanny Valley, donc de la vallée de l'étrange, qui est un concept, donc développé apparemment par un scientifique japonais ou chercheur japonais. Et en fait, c'était quand ils ont fait des recherches et des travaux pour faire des robots, donc des humanoïdes, ils se sont rendus compte que plus ton robot avait des traits donc humains, plus au début, tu as, entre guillemets, de l'empathie. Genre, tu projettes, etc. Et normalement, c'est une courbe qui fait que plus tu te rapproches d'une ressemblance avec un être humain, et quand tu es genre quasiment à 100%, dans les 95-98%, la ressemblance, elle est quasiment parfaite, mais les petits détails qui font que c'est pas vraiment humain, ça te met mal à l'aise. Ça crée quelque chose de gênant, c'est un effet repoussoir, répulsif, etc. Où on pourrait pas mettre le doigt dessus, mais ça nous crée une gêne. Et normalement, c'est biologique. Normalement, c'est un élément qui est présent chez chaque être humain. Et quand moi, j'ai fait ma recherche là-dessus, les théories, elles disent que ça pourrait être un truc qui date vraiment de la préhistoire ou par rapport à d'autres espèces qui étaient un peu similaires à nous et qu'on voyait pas comme exactement la nôtre. Ça nous mettait un peu l'alerte pour dire « Ok, c'était un danger, t'as une méfiance qui va venir. » Et apparemment, c'est comme donc la peur des serpents, ce truc-là qui donc était mortel depuis des siècles et des siècles. Et bah, instinctivement, ton corps,
on l'a inculpé.
Ouais. Il se dit biologiquement, oula, c'est bizarre. Genre, c'est pas totalement toi, en fait. Il y a un truc de chelou. Et donc, pour moi, l'effet repoussoir qu'on a avec le DLSS5, c'est ça. C'est que ça se veut photoréaliste. Nvidia dit, voilà, la poursuite qu'on cherche et tout, et c'est discutable. C'est d'aller vers, c'est la réalité. Mais comme ça l'est pas vraiment, il y a quand même, moi, je pense, quelque chose qui, moi, en tout cas, me met mal à l'aise. Il y a quelque chose qui me fait me dire, c'est pas vraiment une photo, c'est pas vraiment l'actrice de Resident Evil 9, c'est proche de la réalité, mais c'est quelques petits... que ça dégage, en fait, visuellement, globalement, ça me plaît pas.
Bah, ça ne me plaît pas, mais au-delà de même, parce que je te rejoins là-dessus, mais c'est que je pense que ça nous fait dire surtout à quel point de... C'est pas un jeu vidéo, ce qu'on est en train de voir, en fait. C'est-à-dire que ça fait 30-40 ans que le jeu vidéo existe, et toutes ces technologies-là qu'on a vu venir, l'arrivée de la HD, tous ces moteurs, tout ça, ils nous ont inculqué, qu'on le veuille ou non, indirectement, à quoi doit ressembler un jeu vidéo. Et le fait d'avoir une technologie-là qu'on a l'impression qui ne relève pas de cette culture-là, entre guillemets, je sais pas si le terme culture est le bon, ne relève pas voilà, d'une technologie qui vient après le DLSS5, on a l'impression que c'est pas une suite logique de la technologie, en fait, de tous les moteurs qu'on peut voir, de tous ces éléments visuels qui nous font dire que ce que on est en train de voir est un jeu vidéo. Et je pense que c'est ça qui nous fait vraiment avoir cet aspect très repoussant. C'est pas juste, voilà, on n'aime pas, c'est vraiment à côté de « non, là, ce que je suis en train de voir, c'est étrange.
Ouais. » Donc voilà. Justement, ça m'amène un peu à la question que je vais te poser. Donc déjà, voilà, on a parlé donc de la pomme de Jensen, là on a parlé du beau et tout, et en soi, quand on parlait de dommage contrôle, on l'a vite fait évoquer, mais Capcom et Bethesda ont été souvent présentés en mode « Ah, mais ils sont totalement partenaires de la technologie, ils ont travaillé avec Nvidia pour le rendu que vous voyez, donc, parce qu'un des éléments qui a aussi été amené par les joueurs, étonnamment quand même, c'est bien, c'est de parler de direction artistique, d'intégrité de vision artistique. Donc comme quoi les joueurs ont peut-être un peu...
Parfois ils disent des trucs cool.
Ils ont de la considération pour les artistes.
Waouh, purée, oh la vache.
Pour une fois, ça a été relevé. Et donc un des ingénieurs d'NVIDIA en charge du DLSS5 a dit « Ah mais Capcom et Bethesda,
on a eu le feu vert
avec nous. Hein. »
On a eu le feu vert. Sauf que...
Vas-y.
Okay. En fait, ouais, sauf que bah, tout simplement, on sent que le feu vert a été donné par des gens qui ne sont pas les développeurs, je pense. Parce que tout simplement, après voilà, des retours qu'on a eu de sources sûres, les développeurs de chez Capcom, je sais pas pour Bethesda, mais en tout cas pour chez Capcom, ils n'ont pas été prévenus de cet accord, voilà, du feu vert qui a été donné du coup par des gens qui sont dans des strates différentes. Et donc voilà, c'est intéressant de voir à quel point les développeurs comme les joueurs du coup ont découvert ça au même moment. Et du coup, je vous laisse imaginer, je pense la cible déjà pour les joueurs. Le fait de voir ça, ça crée un effet de répulsion, je ne sais pas si
ouais,
on peut le dire.
C'est ça.
Imaginez maintenant quelqu'un qui a travaillé sur Resident Evil 9, par exemple, et voit Grace après le vaccin, tu vois. Grace sous Pfizer, tu vois. Ou...
Ouais.
Je ne sais pas quel vaccin, mais...
Mais c'est pour ça, du coup, ça m'amène à cette question-là. Vu que donc, les développeurs n'ont pas été dans la combine, pourquoi pourquoi est-ce que le DLSS 5 est là, Will? Genre, pourquoi on a ce résultat et c'est quoi la démarche derrière?
On va aller droit au but, hein, parce qu'on a qu'une heure et tic-tac, tic-tac. Les gars, l'oseille. Les gars, c'est le marketing. Les gars, c'est le marketing, forcément. Si le DLSS 5 s'appelle DLSS, déjà, c'est pour, voilà, comme on l'a dit, une raison purement marketing. Parce que même si on a dit que il fonctionnait différemment de ce qu'on a pu voir, même pas vis-à-vis des autres technologies d'upscaling, il fonctionne différemment des autres versions du DLSS. Bah, je pense que c'est... On est en mars 2026 et que d'ici un an, maintenant, on va avoir une nouvelle génération de cartes graphiques de chez Nvidia, du coup la génération qui sera celle des 6000. En plus de ça, Nvidia a expliqué que la démo allait être disponible, enfin, le DLSS 5 allait être sur le marché d'ici automne 2026, donc il sera peut-être jouable, on verra, sur les cartes graphiques qu'on a actuellement. Si le DLSS 5 est là, c'est juste, voilà, on est dans une économie qui est absolument à quelques millimètres de la noyade, une économie de la tech qui ne... essaye de trouver des moyens pour se revitaliser, continuer à se remettre en course, pour essayer de trouver, voilà, des éléments sur lesquels se raccrocher pour continuer à faire tourner la machine. Et le DLSS 5, en fait, on est dans une économie de la RAM qui est totalement saturée, et rappelez-vous ce que j'ai dit au début de l'épisode, il a fallu 2 5090 pour faire tourner le DLSS 5. Je vous laisse imaginer du coup la quantité d'énergie d'un point de vue hardware qu'il faudra pour avoir une carte graphique qui fasse tourner le DLSS 5.
Même si, je tiens juste à mettre un peu là-dessus, c'est juste, beaucoup de gens étaient en mode, ah, c'est 2 5090, et c'est vrai, genre, ça fait 8000 balles de matos pour ça, mais on ne sait pas si c'est une question de VRAM, de RAM virtuelle dans la carte graphique, vu que c'est deux cartes avec 32Go de VRAM, que c'est une question de calcul brut, que c'est une question de fluidité, de au cas où, parce qu'ils peuvent.
Je pense que c'est ça relève du au cas où.
C'est pour ça. Mmh. Donc pour moi, il y a un peu ce côté où c'est alarmant, mais après, s'ils disent que dans 6 mois, la technologie, ils l'ont annoncé comme tournant sur une seule carte graphique, le débat, c'est, ouais, comme va dire Swill, est-ce que c'est pour cette génération, la prochaine, ça, voilà, je vais laisser Swill reprendre, mais il y a beaucoup de mecs qui vont vous dire, ah, mais du coup, la technologie, elle va être pour les 1%, elle va jamais tourner sur le grand public. Et je suis en mode, hey, si Nvidia l'a présenté, c'est qu'ils veulent qu'elle soit accessible. Ça reste, genre, le marchand de popcorn, il veut que vous achetiez du popcorn.
Oui, voilà, c'est ça. Il veut pas juste attirer le mec le plus riche de la ville, il veut en vendre à tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils ont pris des jeux comme RE9, Oblivion, voilà, c'est des jeux très mainstream. C'est pour attirer les gamers, comment c'est pas... voilà, c'est pour vous faire raquer les refs. mais voilà, donc... Non, pour moi, genre, l'existence même du DLSS 5 relève, pour moi, de questions économiques. Et d'un point de vue purement marketing, il leur fallait déjà un nom en place, il leur fallait, voilà, je pense qu'un système seller. Pour moi, c'est bête, hein. Le DLSS 5 va être le système seller de la future génération de cartes graphiques, qui sera DLSS 5 Ready. Et je sais pas si... Ça paraît très une vision assez cynique, mais moi, je la trouve suffisamment rationnelle comme analyse. Si toi, Ulysse, t'as une autre...
Sur pourquoi le DLSS 5 est là?
Ouais, c'est la raison pour laquelle
bien
il
sûr.
Existe.
Y a... enfin, en fait, moi, ce que je trouve un peu compliqué, c'est que la raison technique de la... pourquoi le DLSS, déjà, de base, existe, c'est une raison de contrainte technique, tout simplement. Ça, on l'avait peut-être déjà évoqué dans l'épisode sur la technique, mais je crois qu'on l'avait vraiment juste...
On l'a pas développé.
Ouais, on avait survolé le bail, ou... voilà, le DLSS, dans l'idée, il faut imaginer donc la technique. Comment marche votre console de jeu? Comment marche votre PS5, votre Switch 2, votre PC, n'importe quel portable, ok? Vous avez donc des puces dedans, et chaque puce, je vais essayer de vraiment être très en mode, je parle à un enfant de 5 ans pour vulgariser, parce que déjà moi, je comprends pas tout, mais j'ai à peu près les tenants et aboutissants de, ok, comment ça fonctionne? Donc, on a une puce, donc une puce informatique, et faut imaginer que cette puce-là, elle peut avoir plusieurs tailles. Et quand on parle de taille de puce, on parle en nanomètres. C'est-à-dire que c'est minuscule, vraiment microscopique. Et sur ces puces-là, donc on a des gravures, on arrive à mettre donc des cœurs de calcul. Donc là, il y a les CUDA cores, les Tensor cores, les AI cores, bref, c'est des cœurs qui sont pensés pour chaque différent type de calcul. pour calculer bah, du coup, voilà, donc, l'aspect visuel du jeu. Ça va être, y en a qui vont mieux gérer certains modèles d'IA, certains procédés et tout. Là, vraiment, je paraphrase en mode je vais directement jusqu'au résultat. Mais juste, il faut se dire, voilà, on a une puce. Dessus, on grave des formules, des éléments qui vont calculer plein de choses. Et plus on a de cœur de calcul, plus le processeur est puissant. La puce est puissante. Et en général, ce que là, on faisait sur les dernières années, on va dire 10-15 dernières années, on faisait des puces de plus en plus petites, comme ça, en fait, les puces étaient de plus en plus efficaces en termes d'énergie consommée. Par exemple, il faudrait imaginer ça comme une ville ou une usine. Prenez, si en France, on avait 1000 ouvriers qui travaillent, ils sont disséminés dans toute la France et tout, ok, ils font le taf, c'est bien, mais il faut quand même qu'ils arrivent à communiquer les uns les autres, c'est un peu galère. Tu remets 1000 ouvriers dans genre, une usine. Vraiment, ils sont là sur même pas allez, 500 mètres carrés, ils sont tous là. En fait, c'est hyper efficace. Les trucs qui s'échangent, tac, tac et tout. Donc, ils gagnent en efficacité, en productivité et tout. Et c'est la même chose avec ces puces-là. C'est qu'on veut essayer de mettre le plus d'ouvriers sur le moins d'espace possible. Et là, les gravures, elles deviennent de plus en plus galères. Là, on est sur du 3 nanomètres pour la prochaine génération d'NVIDIA. Ça serait le modèle Rubin, qui est déjà utilisé pour l'IA en termes d'architecture. Et il y a les questions qui se posent d'ingénierie que moi, tu vois, je ne maîtrise pas. Où les gens sont en mode, mais en fait, à un moment donné, comment tu veux encore réduire la taille des puces? Passer à du 2 nanomètres, aller même 1, j'en sais rien et tout. Tu sais, genre, à un moment donné, c'est les molécules aussi. C'est...
Ouais, c'est ça. On atteint une sorte de plafond du hardware. Voilà. Un plafond du hardware et le DLSS, il arrive un peu ici pour nous sauver.
C'est ça. C'est du coup la solution de l'industrie à un problème physique et scientifique, c'est de contourner ses limites et ses contraintes physiques et d'apporter une solution software pour continuer à avoir une progression en termes de performance.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
Donc le DLSS de base, c'est ça, c'est une solution pour ne pas stagner, pour continuer à assurer au marché une croissance technique, sans multiplier le coût en théorie, en disant bon, on n'a pas besoin de toujours avoir plus d'ingénierie, de recherche et tout.
Juste des logiciels qui fonctionnent.
Mais le logiciel fonctionne. Finalement, les cartes graphiques coûtent quand même plus cher pour des solutions software. C'est pour ça que les joueurs sont aussi réfractaires au framegen et tout ça. Donc, sur le papier, pour moi, le DLSS, oui, je comprends pourquoi ça existe. Le DLSS 5, là, c'est des considérations ouais, éthiques. De est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin que ça modifie autant notre image? Et donc, pour moi, si on parle d'éthique, d'esthétique et de DLSS 5, la question qui va se poser, qui va être un peu la grande dernière partie, c'est est-ce qu'il faut tout jeter du DLSS 5? Est-ce que vraiment, il n'y a rien à garder? Est-ce qu'il faut garder sur le ressenti d'Uncanny Valley et dire « Ah non, ça c'est cracra, j'en veux pas. » Pour moi, déjà, tout est faux dans un jeu vidéo. Genre, je vais le développer vraiment, mais on dit « fake frames, fake nana et tout ». Ça faisait beaucoup rire parce que quand on en parlait en mode « Il y a des images réelles et fausses. » Mais en vrai, tout est généré par informatique.
On dit ça, mais on est incapable de discerner les fausses frames des vrais frames.
Voilà. Genre, il y aura des artefacts visuels, mais foncièrement, c'est la même chose. C'est une image générée par un flux électrique informatique, d'accord? Donc, soit elle est générée par le moteur du jeu, la console ou le PC, ou le framegen d'NVIDIA, mais l'une ou l'autre n'est pas plus vraie, en fait. Elle est simplement calculée. Donc, pour moi, ce qui se passe avec, par exemple, les fake frames, c'est simplement qu'on déplace la corrélation entre fluidité d'image, réactivité et latence, où on sépare en fait ces données pour gagner en fluidité, lisibilité, mais on garde la latence de base. En général, le framegen, c'est ça. Si vous êtes à 60 fps, vous activez le frame generation, vous passez à 120, mais votre framerate de base reste à 60. Donc vous avez la sensation de jouer à 60 images par seconde, mais votre cerveau, l'image que vous voyez, elle va à 120. Donc c'est on retire une corrélation entre les deux. Là où de base, c'était deux vecteurs qui avançaient tout le temps ensemble. Et ça reste faux. Et du coup, dans ce débat-là, pour moi, c'est pas vraiment le problème de comment l'image est générée, est-ce que c'est par Yahoo, c'est vraiment le résultat. Et le DLSS 5, juste, il fait faux. Tout le monde parle de filtre d'IA. Et c'est le cas, en fait. C'est le problème, c'est que quand on a commencé à le défendre, on s'est dit « Ah, mais ça interagit avec le moteur du jeu, avec la lumière, les sources, etc. » Et en fait, non, c'est vraiment quelque chose qui analyse l'image. Il y a deux éléments qui sont, comme on l'a dit, les vecteurs de mouvement et les couleurs. Et qui, à partir de ça, reconstruit quelque chose. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le problème, c'est que l'outil qui est utilisé là, il ressemble à tout ce qu'on a déjà vu généré par IA avec Gemini,
Sora,
Nano Banana, des trucs comme ça. Et Ouais, c'est pas une esthétique comme a dit Sweet qui fait jeu vidéo. Moi, je pense que mon problème, c'est que genre, c'est trop visible. Je pense que ça me gêne pas quand l'IA est invisible. Quand l'upscaler, il fait son travail de. Ouais, il augmente ce qu'on voit. Il essaie d'avoir le moins d'artefacts, de moins halluciner.
Fait son travail d'optimisation de l'image en
Voilà.
fait.
Mais si il vient vraiment, genre, passer un peu un coup de pinceau en mode, hop là, moi, j'aimerais bien que ça ressemble à ça et tout. Genre, bah, en fait, wow. Doucement, tu vois, il y
Reste à ta
a.
place.
Reste à ta place. Je suis dans ma zone, tu restes dans ta
Dans ta
zone.
zone.
Et c'est un peu le truc, tu vois. Et un deuxième élément que je me suis mis, c'est on parle de contrôle total par les développeurs. En mode, ils ont dit, pour régler l'intensité du DLSS5, le masquage, les couleurs et tout. Mais je sais pas, là, comme ça a l'air assez limité. Et surtout, les développeurs n'étaient pas au courant. Donc ça pose la question de est-ce que du coup, les devs auront en fait la marge de manœuvre pour vraiment pouvoir ajuster de façon très fine, surtout le DLSS5? Ou est-ce qu'ils doivent le subir en mode, bon, bah, ok, tous les jeux vont devoir passer à la moulinette de ce modèle d'IA?
Je trouve que c'est hyper intéressant, mais le problème, c'est que moi, je me base sur la résultante de tout ça, de tout ce qu'on a dit, c'est que quand on en arrive à là, tu vois ce qu'on va dire, c'est-à-dire on commence limite à remettre en question le travail de développeur, je me dis que il y a un réel désintérêt pour la démarche artistique, en fait, que ce soit par l'industrie, par bah, du coup, voilà, des entreprises comme Nvidia, ce genre de choses, mais. Je me suis vraiment, j'ai essayé de me poser la question, comment on a fait pour en arriver là en fait? Comment on peut avoir une industrie qui est autant désintéressée, autant aussi peu impactée par la nature artistique que peut avoir le média du jeu vidéo? Et je pense que ce fait, du coup, le DLSS5, c'est un peu un produit de tout ça en fait. C'est le produit, voilà, d'une industrie qui est vraiment désintéressée par là où les démarches artistiques. En fait, quand on constate les pratiques de Nvidia, on se dit que bah l'environnement vidéoludique futur, bah, il va être très peu propice à la libre expression artistique, en fait, parce que on est dans une quête du photoréalisme depuis près de 20 ans, mais en fait, je trouve qu'on en a perdu ce qui faisait l'essence, parce que moi, je me souviens, lors de la 7e génération, la promesse, c'était, voilà, c'était des expériences en HD, qui étaient portées, du coup, par l'Unreal Engine 3, je me souviens du moteur physics, ou, voilà, des jeux comme Watch Dogs et tout, vraiment, qui avaient vraiment des physiques qui étaient vraiment poussées. Et en fait, tous ces outils-là techniques, technologiques, bah en fait, ils étaient mis dans la main de qui? Bah, dans la main des développeurs, en fait, à la fin. C'était ça l'ordre des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et
Ouais.
voilà, on était convaincus par la capacité des développeurs, mais aussi de la technologie, à ne freiner aucune démarche artistique. Et en fait, c'est bien à partir de cette génération-là, du coup, voilà, après 2005, qu'il y a commencé à avoir des reproches visant voilà plusieurs jeux qu'on commençait à considérer comme creux. Aujourd'hui, c'est des jeux qu'on pourrait appeler du slop, tu vois, genre l'Unreal Engine 5 slop, ce genre de choses. Et j'ai pas envie de dunker, voilà, de parler mal de ces jeux-là. Je pense à des jeux comme RE5, des jeux comme Watch Dogs, voilà, je me répète, mais voilà, c'est des jeux que moi j'aime beaucoup, mais c'est pas des jeux que je considère comme creux, mais je me souviens, c'était le reproche qu'on pouvait leur faire à l'époque. Mais le fait, le progrès technique a mis en place, en fait, comme marketing, ce fantasme du photoréalisme, en fait, qu'on continue à voir aujourd'hui. Moi, je pense beaucoup à un jeu comme GTA V, qui est un jeu de 2013, et encore aujourd'hui, on a des mods faits par des fans en mode GTA V, photoréaliste, et ces mods-là, ils étaient faits en 2013, enfin non, plus à la sortie PC, donc 2015, et on continue à aujourd'hui à avoir des mods GTA V, photoréaliste. Donc, il y a une pratique, en fait, qui a créé une culture qui se répond à elle-même, en fait, et qui oublie, je trouve, totalement, en fait, la friction entre technologie et art. Et c'est cette friction-là, en fait, c'est ce qui fait du jeu vidéo, selon moi, un art à part entière, en fait. Voilà, je me souviens de l'épisode dans les jeux de course, un jeu comme Forza Horizon, mais il y en a plein, tu vois, des Ridge Racer. La sensation qu'on a en jouant à ces jeux-là, bah, c'est une osmose entre bah, les graphismes, qui est une part hyper importante de l'expérience, le son et le gameplay. Moi, il y a une séquence que je trouve exceptionnelle dans le premier The Last of Us. La scène du chalet où il y a Joël et Ellie, il y a un moment où on voit le tremblement d'œil de Joël, ou du coup de Troy Baker, c'est ça? On arrive à
Ouais,
voir son œil en train de trembler, et en fait, c'est toutes ces choses-là que je viens de vous dire, en fait, elles n'auraient pas été possibles sans voilà, la motion capture, par exemple, sans les progrès qu'on a fait du coup dans les années 2000. Pour créer un jeu comme Forza Horizon. Tu vois, je pense à Forza Horizon 2 que
mmh.
Ubisoft. Non, Forza, c'est ça? Forza Horizon 2, je
Ouais,
pense.
c'est ça.
Mais voilà, toutes ces choses-là, en fait, l'IA, elle pourra jamais le faire, si ce n'est, voilà, que copier vulgairement, en fait. Mais comme on est dans une industrie, on vit dans une industrie, tu vois, ER, gravement emporté par la bulle de l'IA, en fait, bah, il est inconcevable pour Nvidia d'entreprendre un avenir dans lequel l'IA ne serait pas au centre de chaque marché, dont celui du JV. Et puis, qui de mieux que les gamers biberonnés par la quête au photoréalisme pour accepter une technologie qui appliquera un filtre IA sur tous leurs nouveaux jeux. Moi, c'est un truc que je dis souvent, tu vois, j'ai genre... chaque boulanger ferait tout son possible pour nous convaincre que son pain est le meilleur, pas parce qu'il aime le pain ou qu'il est fan de son artisanat, non, il fait ça pour le simple but de nous faire raquer. Et c'est pas être cynique, tu vois, genre c'est... Genre on est dans une industrie qui est dans cette friction constante entre le profit et un médium qui est quand même poussé par une démarche artistique assez forte. Donc, voilà, en conclusion, pour moi, sur cette approche artistique, sur le DLSS 5, les gens de la tech, ils sont habités par le simple amour du profit, en fait. Ils voient le JV comme une mine d'or lorsque des décennies de marketing ont créé une culture désintéressée par toute démarche artistique qui est pourtant nécessaire à l'élaboration de toute œuvre, en fait. Le DLSS 5, en fait, c'est un rejeton un peu de tout ça. Genre, c'est un côté de... C'est une sorte de créature d'homonculus qui représente un peu tous les aspects négatifs de cette industrie, selon moi, en fait. Alors qu'à la base, c'est une technologie qui fonctionne hyper bien et qui fait des miracles. C'est dommage.
Ouais. Et en effet, genre là, tout ce qu'on vous dit, c'est, à la fin de la journée, dans tous les cas, à retenir, c'est le DLSS 5, c'est le rejeton, c'est les mots, en fait, de l'industrie. Il synthétise tout ça. En bien, vis-à-vis de la prouesse technique que ça, d'avoir en temps réel de la retouche et tout, et aussi en mal de... Cette retouche-là, elle n'est pas motivée parce que Nvidia veut faire un cadeau aux joueurs et vous dire, vous avez vu, c'est pour vous, c'est un cadeau, genre c'est le feu que je donne à Prométhée, vas-y. Non. C'est parce que derrière, ils veulent vendre des cartes graphiques et rassurer les investisseurs vis-à-vis de l'IA. Mais moi, il y a un truc que je m'étais noté, je trouve intéressant vis-à-vis de ce que dit Squill sur la place aux développeurs, c'est quand on parle donc esthétique, moi je m'étais dit, s'il y a... À quoi est-ce que je peux comparer le jeu vidéo en termes de médium, en termes d'art, d'expression artistique ? Est-ce que c'est de la peinture ? Est-ce que c'est de la musique ? Est-ce que c'est du cinéma ? Et en fait, plus j'ai fait mes recherches, plus je me disais, en fait, un développeur de jeux vidéo, mais dans la façon dont on envisage l'expérience du joueur, donc comment tous les devs, compositeurs et tout se mettent en place, ils font un travail d'architecte, notamment de paysagiste, en fait. J'avais retrouvé des notes que j'avais prises sur Auguste Choisy, qui est donc un historien de l'art qui avait écrit un ouvrage sur l'Acropole d'Athènes. Et en gros, il était là en mode, voilà, l'architecture, elle est conçue avec un point de vue, celui donc d'un homme et de son mouvement, en fait, le mouvement de la promenade. Et tout ce qu'il théorise, en fait, c'est donc les idées d'architecture moderne et en soi, genre Le Corbusier, architecte, urbaniste suisse assez connu et tout, qui a un peu révolutionné la façon de travailler les architectures. Je crois que c'est en mettant des colonnes, c'est-à-dire on n'a plus besoin de murs porteurs, on peut donc créer des façades beaucoup plus légères, décoratives. Et bah, il a été vachement touché, entre guillemets, par cette façon d'aborder les choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est que leur travail sur l'architecture, la façon de concevoir l'œil du spectateur, elle rejoint en fait ceux des paysagistes, en fait. Quand on commence à regarder les jardins, que c'est aussi pareil, un art, il y a plein d'écoles différentes de styles de mouvement. Et j'étais retombé sur mes notes sur le pittoresque, et pour moi, c'est ce qui définit après le jeu vidéo. C'est donc, en fait, c'est une tendance de l'art des jardins et de l'architecture des manoirs, donc en Grande-Bretagne, au 18e, 19e siècle, où ça se caractérisait par la recherche de la symétrie, des jeux de lumière, d'un aspect sauvage de la nature. Le truc, c'est que donc le jardin était avant tout conçu comme une succession soigneusement ordonnée de points de vue sur des objets architecturaux ou plastiques. Et en fait, c'est ça le jeu vidéo. C'est les outils à disposition des développeurs qui sont plus similaires à ceux d'un paysagiste que ceux d'un peintre, dessinateur ou d'un réalisateur. Capter le réel, c'est le but d'un appareil photo, d'une caméra, plus qu'un moteur graphique, qui s'apparente donc à un jardin et à un espace en trois dimensions qu'on sculpte, qu'on arrange pour le visiteur qui est, vous l'avez deviné donc, le joueur. On dispose des caméras pour traverser l'espace, mais on le sculpte en fait avant toute chose. L'IA générative, en fait, de par son procédé même de modèle qu'on entraîne pour tout faire, tout imiter, tout absorber, en fait, elle revient à travestir chaque jardin d'un même traitement visuel et à aseptiser les différences, en fait. C'est pour ça qu'on peut, en fait, citer l'expression déclinable ad nauseam, à faire un jeu pour tout le monde, on fait un jeu pour personne, qu'on utilise pour chaque forme d'art et tout. Donc, est-ce qu'on a besoin du DLSS 5? Moi, ma réponse que j'ai rédigée, c'est, bah, si on demandait à un poisson est-ce qu'il a besoin d'un jetpack, je pense qu'il dirait non en fait. Il a jamais testé le jetpack, juste ça l'attire pas et pour l'instant il nage, donc il a pas besoin de voler, il en voit pas le besoin. Et c'est un peu pareil pour moi avec le JV, c'est que là on me met une technologie hyper fancy en disant elle est gros, c'est l'avenir du jeu vidéo et tout. Moi je suis un poisson qui nage, je te vois avec ton jetpack, mais je vois pas l'intérêt. En fait, là comme ça, ça m'attire pas. Et je me suis jamais dit que mes jeux manquaient de réalisme, en fait. Je trouve que c'est une façon extrêmement triste d'entrevoir le jeu vidéo, de voir ça que sous un prisme technique de chaque avancée technique doit nous rapprocher de la réalité. C'est pas vrai. C'est ce qu'il y a eu avec la peinture, en fait. Je parle beaucoup jardin, mais la peinture en mode « Ah, on voulait faire des œuvres de plus en plus photoréalistes. » Une fois qu'un mec a su faire un tableau qui ressemblait à ce qu'on voit, littéralement, donc on s'éloigne de l'impressionnisme, bah tout le monde s'est dit « Bah en fait, non, c'est chiant. On préfère voir des formes, on préfère voir de l'abstraction, on préfère voir une expression artistique. » Et c'est fou de se dire que cette conclusion qui a été tirée comme il y a... Vas-y, on va dire peut-être un siècle.
Ouais, un peu plus d'un siècle.
Ouais, vis-à-vis, tu vois, de la peinture et tout, le jeu vidéo refait le même biais et personne se dit « Mais on n'a pas besoin de ça. » Parce que on est des nerds, en fait. On est dans un milieu qui est quand même assez embourgeoisé. Le jeu vidéo, là, ça va être un peu une minute en roue libre et je vais en parler avec Swill.
Et recentré sur lui-même.
Ouais, recentré sur lui-même et surtout... Swill va vous en parler, mais elle coûte combien la PS5 actuellement ?
À date, là, on est le combien, là ?
Là, on est
le 29 mars. 650 euros.
Et la PS5 Pro ?
899 euros.
Donc, on peut le dire, malheureusement, le jeu vidéo est un... En vrai, c'est une passion de bourgeois, maintenant. Ah ouais. C'est une dinguerie de dire ça, mais c'est... C'est extrêmement cher. On voit des hausses de prix partout, la RAM qui augmente, les disques durs qui augmentent, les SSD, les calculs,
les services,
les abonnements font qu'augmenter. Et donc, en fait, tous les débats qu'on a là, où avec ceux-là, on parle d'esthétique et tout, je me rends compte qu'en fait, on partage l'espace avec des gamers qui n'ont pas ces considérations-là parce qu'il y a un rapport de productivité vis-à-vis du jeu vidéo. De le moteur doit être le plus productif possible, le plus optimisé, mais pas en mode il faut qu'il tourne sur toutes les machines. Pour eux, c'est il doit tout le temps, entre guillemets, être à une forme de perfection technique. Et il n'y a pas vraiment de place pour entre guillemets, l'imperfection. Et c'est un texte que je vais vite évoquer de Ito Steyerl, une théoricienne, qui disait donc l'image pauvre, entre guillemets, les images en basse définition, pixelisées, avec plein d'artefacts qu'on recopie pour la 20e fois tel film et tout, un DVD. Elle dit, c'est une image qui circule, une image qui a vécu, qui fait partie des vivants, en fait, du monde comme ça, populaire. Là où, ouais, un film en 4K ou 8K, 120 FPS...
Hyper net.
Hyper net. Ce film-là, il a une copie. Elle peut pas se distribuer facilement. Il faut avoir les outils et le matériel pour y accéder. Donc, ça veut dire qu'il faut le lecteur Blu-ray ou le projecteur, ce que vous voulez. Donc, c'est une image qui, entre guillemets, est riche et assez aisée. Et là, je paraphrase et je fais des conclusions qu'elle simplifie pas autant. Mais quand Nvidia vous parle d'une image parfaite, d'un truc de photoréalisme, de c'est l'avenir, c'est ça, c'est qui. Ils veulent pas d'imperfection. Tout ce qu'on pourrait nous voir comme l'expression d'un développeur, eux, ils pensent que peut-être c'est une erreur, que la lumière interagit de telle façon avec tel décor ou tel truc.
Angle de caméra, telle musique liée à tel moment.
Et en fait, c'est un des problèmes qu'on n'a pas évoqué, mais rien que les cinématiques, quand vous regardez... moi, j'ai vu là un exemple avec RE4 Remake. Je pense que tu vois la scène avec Ada Wong.
Et on se bat avec Léon.
Ouais. Oui. T'as vu un peu une scène où les mecs ont mis une caméra libre pour voir comment c'était chorégraphié. Et en gros, ce qu'on voit, pour vous le résumer si vous ne l'avez pas vu, c'est tous les moments où la lumière est placée à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est placée pour en faire une emphase sur le couteau de Léon, sur le visage d'Ada, sur l'ombre de tel truc. C'est de la mise en scène. Vraiment, c'est du cinéma.
C'est de la mise en scène en trois dimensions. C'est de l'animation. Oui.
Exactement. Et si le DLSS 5 est là pour rendre la lumière réaliste, du coup, qu'est-ce qu'il fait de cette mise en scène-là ? Est-ce qu'il respecte chaque éclairage ? Ou est-ce que juste il rend le truc tel que c'est dans la réalité et du coup il fait un éclairage uniforme et qui détruit en fait cette vision artistique. Et là la question elle va se poser de il y a une raison pour laquelle l'éclairage il fonctionne de telle façon. Peut-être qu'il est pas censé fonctionner de façon réaliste tout le temps.
Merci. Non, je pense que s'il nous reste combien de temps, mais
là il nous reste 5 minutes.
Moi je pense que on arrive à une forme de conclusion sur laquelle on revient beaucoup souvent chez RNG après plus de 25-26 épisodes maintenant. Est-ce qu'à la fin, qu'est-ce que nous on peut faire en tant que gamer ? Est-ce qu'il faut redéfinir ses pratiques ? Est-ce qu'il faut juste avoir une approche différente du jeu vidéo, tout simplement, avoir une considération qui est différente ? est-ce qu'on a besoin d'une... Genre, c'est une dinguerie que... Tu sais, on a fait un épisode sur la PS5 Pro, je disais, on n'a pas besoin de la PS5 Pro. Là, j'arrive à un stade où je me dis, est-ce qu'on a besoin d'une PS5 à 650€ ? Tu vois ce que je veux dire ? On arrive à aller dans des profondeurs vraiment d'une tristesse absolue. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine génération de consoles, elle va être très intéressante. À voir comment Sony va se positionner, comment Xbox va se positionner. Ça va être quoi maintenant le billet d'entrée pour une console actuelle ? On va arriver dans des stades où on conçoit une PlayStation 6 à 900€. On conçoit une Xbox, si elle va s'appeler comme ça, vu que
le projet
Xbox.
LX, ouais.
Voilà, est-ce que ça va coûter quoi ? 900, plus de 1000€, on sait pas. Même quand Valve. On considérait Valve peut-être la seule entreprise qui pouvait venir apporter une proposition cheap aux joueurs avec un PC, avec une sorte de PC hybride. Même eux, voilà, ils considèrent mal une Steam Machine à moins de 900€, 900$, peu importe. Mm. Ça. C'est compliqué en fait. En fait, tous ces éléments-là, moi, me rendent sincèrement triste en fait. Je pensais pas quand j'avais commencé RNG il y a 3 ans à peu près maintenant. Ouais. Déjà, j'avais commencé RNG parce que je trouvais que l'industrie était dans une situation qui était compliquée, mais qui était intéressante à analyser, intéressante à partager, et qui avait de la friction. Encore, il y avait encore tellement de bonnes choses à dire. Et il y a encore tant de bonnes choses à dire. Il y a des jeux superbes. RE9, voilà, Ulysse,
ouais, il vient de sortir.
On va peut-être vous en parler bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est que on n'arrête pas de descendre encore plus profond dans le ridicule, dans l'inatteignable, en fait. Sincèrement, là, le jeu vidéo devient un luxe.
Ouais. Pour moi, ce que doivent faire les joueurs et ce qu'on doit encourager, c'est la critique. Le DLSS 5, en effet, il va pas bouger. Nvidia, c'est l'entreprise la plus cotée en bourse. On en parlait un tout petit peu en off. Jensen Huang, c'est le 17e milliardaire actuellement au niveau de sa fortune. Donc, ouais, le bug, il est là pour vendre de l'IA. Nvidia, pareil. Et ça va pas bouger. L'IA va être dans le jeu vidéo, elle va être de plus en plus imposée. Il y avait un peu le débat, on va le citer, le tweet du JDG, tweet un peu à la con. Non mais s'il voulait pas, l'activez pas. Le problème c'est que la technologie, ça a toujours été
boomer,
comme ça
pardon,
au début.
Excuse-moi, j'ai toussé, pardon. Vas-y, continue.
Non mais au début peut-être, mais quand la tech va être implantée, à un moment donné, on le voit actuellement, le DLSS, je crois que plus de 90% des joueurs qui lancent un jeu sur PC avec une carte Nvidia l'activent tout le temps. Parce qu'en vrai, ils ont été convaincus par la technologie, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que maintenant, c'est presque une nécessité de l'utiliser, en fait, en termes de rendu graphique, etc. Moi, c'est rare que je me dise pas « Ah bah, je vais pas l'utiliser parce que j'ai envie d'avoir plus de performance ou autre. »
Pour la parenthèse, il y a même des jeux qui sont pensés Iron Life 2. Alors, si vous mettez pas le DLSS, ça va être compliqué,
Monster
par exemple.
Hunter Wilds vous disait pendant votre test de benchmark « T'es sûr que tu veux pas utiliser le framegen ?» Genre tu le mets genre deux fois non et toi il dit t'es sûr tu veux pas utiliser Frame Generation en mode gros le jeu tourne mal vas-y mets-le genre
mets
même si t'as
mets les frites dans le sac là
donc c'est une dinguerie tu vois que le jeu vous fasse la remarque avec la notification sur l'écran et moi je pense qu'il faut critiquer la technologie il faut que en fait elle puisse s'améliorer dans tous les cas je vois un futur potentiel où le DLSS 5 s'il fait moins ce côté filtre contrasté un peu faux HDR où genre tout paraît trop contrasté presque net ouais. S'ils arrivent à rendre le truc beaucoup plus naturel, en vrai de vrai, c'est un peu le débat, on parle beaucoup éthique et tout, mais si les gens ne voient pas la différence, en termes juste de ça respecte la DA de base, on va moins gueuler dessus. Ce qui me fait peur, c'est si ça remplace des développeurs, si on se dit, ah bah grâce au DLSS, plus besoin d'avoir autant de mecs pour travailler au niveau de la lumière, du rendu des matériaux, de l'animation. Enfin l'animation, c'est encore le truc où je pense que ça doit rester. On le voit avec Starfield, t'as beau mettre le personnage que tu veux, le plus photoréaliste, l'uncannibaliste parce que le bug il est mal animé il
à, la racine, à la racine le jeu est dégueulasse
voilà le mec il parle il a genre la bouche qui parle un peu bizarrement qui est bizarrement animé donc la gêne elle vient même pas tant du rendu visuel que de le mouvement mais bon c'est un autre débat en tout cas critiquer Nvidia AMD Sony Xbox en ce moment je vois beaucoup de débats un peu de guerre des consoles que bah, la Xbox elle a aussi augmenté de prix la PS5 pareil Steam Machine ils sont frappés de plein fouet par la RAM je le sens qu'ils la repoussent parce qu'ils savent pas quoi en foutre au niveau des specs, en mode à quel prix ils doivent la vendre pour pas perdre de thunes. Et je pense que, ouais, faut arrêter de croire que les entreprises sont vos copains. Et à un moment donné, c'est se dire, il faut critiquer ce qui se passe, en fait. Il n'y a aucun monde où ça veut pas dire bâcher, mais il y a un monde où défendre votre, vos corpos, ça vous sert. Ils vont pas vous envoyer un chèque, ils vont pas vous taper sur le dos. Non, les prix vont continuer à augmenter, les abonnements vont augmenter, les jeux ne seront toujours pas sur disque ou sur galette. Il y aura toujours des DRM pour flinguer les performances de vos jeux sur PC. À un moment donné, c'est bon, en fait. Genre, ça sert à rien de défendre des mecs qui sont là pour faire leur beurre sur votre dos. Donc, ayez un esprit critique, développez une réflexion, respectez les artistes qui font des jeux vidéo, et on verra où ça va aller. Franchement, comme Swill, j'ai absolument aucune idée d'à quoi va ressembler le jeu vidéo d'ici la prochaine génération de consoles. En vrai de vrai, j'en ai aucune idée. Mais il faut en tous les cas qu'on continue à être critique.
Merci beaucoup. En tout cas, c'était RNG, Radio Wayne Gaming. Vous étiez sur Radio Campus Paris 93.9 FM. C'est un superbe épisode.
Ouais.
On s'approche de la fin de saison. Voilà, il nous reste deux, allez, voire trois épisodes si on est gourmand, peut-être. Ulysse, je te remercie.
Merci à toi, Swill.
Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Bisous, ciao.
Ciao.
Vous êtes bien sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could beat gaming.